avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Eh oui, c'est notre expert Philippe Munier, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Et vous êtes en forme Philippe, évidemment.
Oh bah oui, évidemment, en forme de quoi, on sait pas trop, mais en forme, hein, tout ça, c'est sûr.
Alors moi,
mais...
c'est plutôt en forme de poire, si vous voulez tout savoir. Vous voyez, voilà. Mais une belle poire, hein, une conférence, un truc sympa, quoi.
J'ai mangé une conférence ce matin.
Mais voilà, c'est ça.
Voilà, d'accord.
Okay. Alors, on va faire une conférence sur le jardinage ce matin, auquel vous pouvez participer, bien évidemment. Vous nous appelez 02 99 67 35 35 pour poser vos questions à Philippe Munier. Il y répondra et on va tout de suite commencer en partant du côté de Saint-Brieuc.
Jardin bleu sur France Bleu Armorique avec Philippe Munier et Yann Brialix.
Et on est ravis d'accueillir Brigitte qui est à Saint-Brieuc. Bonjour Brigitte.
Bonjour messieurs.
Brigitte, dites-nous tout, comment ça va ce matin?
Oh, ça va très bien, malgré la pluie, mais ouais.
Il en faut de temps en temps. Et puis ça va s'améliorer surtout. Dites-moi Brigitte, comment on peut vous aider ce matin?
Voilà, alors j'ai une bilbergia qui est devenue énorme parce que j'ai énormément de pieds. J'ai eu pas mal de tiges florales cette année et j'ai une amie qui aimerait une bouture. Alors Philippe, j'aimerais savoir, déjà, est-ce que je dois enlever les tiges fleuries et comment faire? Parce que ça me semble assez profond. Et est-ce que pour une bouture, je peux couper simplement, vous savez, la petite ramification qui est juste au niveau de la terre pour la remettre en pot?
Philippe, alors, cette bilbergia mille pattes, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, en fait, il faut se rappeler que, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une bilbergia, comme Yann, par exemple. Qui...
Je suis découvert.
Ce n'est pas un arbre, Yann, je vous promets. C'est une plante tropicale, ouais. Et c'est une plante de la même famille que l'ananas.
D'accord.
Hein. Ah bah, bon, ça se mange pas, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce porc un petit peu touffu. Il faut savoir que dans toute la famille, quand il y a eu floraison, le pied qui a fleuri meurt et que ce sont des petits yeux qui sont autour de la branche de la hampe florale qui se développent pour assurer le remplacement. Mmh. Donc ce qui explique que la plante de Brigitte se soit agrandie d'année en année. Mmh. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est ne pas avoir peur à un moment donné de trancher dans le vif. Donc on prend un scalpel parfaitement affûté, parfaitement désinfecté et on coupe en deux carrément ou en quatre. Hein. Et du coup, ça va permettre d'enlever les hampes florales défleuries et de mettre mieux en valeur les pousses qui sont tout autour et qui sont en train de se développer. Mmh. Et dans la foulée, on peut sans problème enlever avec un petit morceau de la souche, hein, enlever une plantule, je ne sais pas comment les appeler, et la bouturer, ça bouture plutôt très bien. C'est des boutures qu'on va faire à l'étouffée. Donc on plante les plantules dans un mélange très drainant, en général moitié terreau, moitié sable grossier. Et on met un petit sac plastique au-dessus de manière à maintenir une humidité très forte parce que ça pousse dans les forêts tropicales humides. Donc c'est ça qui va aider la mise à racine de la plante. Et ça, on est sur du à peu près 75-80% de réussite sur les boutures de bilbergia. Donc Brigitte qui fait pousser des choses très spéciales dans sa maison, hein, y arrivera sans problème.
Bon, et ben voilà, donc, ça devrait être une procédure assez simple pour vous, Brigitte.
Je n'ai pas trop bien compris le fait de couper la plante en quatre avec un scalpel.
Normalement, c'est pour la diviser à un moment donné si vous trouvez qu'elle est trop importante.
D'accord, donc ce n'est pas la plante qui a fleuri que je coupe en quatre.
Non, c'est pas celle qui a fleuri, c'est l'ensemble des plantes
D'accord,
de
la, donc je voilà. suis obligée d'enlever, d'écarter un peu la motte de terre pour faire un choix.
Absolument.
D'accord, ben merci beaucoup, je vais m'y mettre maintenant.
Et ben voilà, et puis vous nous donnez des nouvelles, Brigitte, ça marche?
D'accord.
Merci beaucoup, belle journée à Saint-Brieuc.
Merci beaucoup, au revoir messieurs.
À bientôt, nous allons à Cancale maintenant rejoindre Michel. Bonjour Michel.
Hey, bonjour Yann, bonjour Philippe, tous mes voeux.
Eh ben écoutez, meilleurs voeux à vous aussi, plein de bonnes choses pour 2020. Alors il paraît que vous avez un problème de poire dure, vous,
oui,
de poire justement.
Oui, en quelque sorte, voilà, j'ai un poirier, des arbres fruitiers, des arbres pêchés, poirier et pommier. Et j'ai un poirier qui est une doyenne des comices, et l'année dernière, les feuilles sont devenues toutes noires, et les poires sont devenues vraiment très 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 dures, on pouvait même pas les manger. Alors, j'avais entendu Philippe il y a 15 jours, 3 semaines, qui parlait qu'il fallait en prévention de, pour la, la fumagine, tout ça, de faire quelque chose avec de l'huile, des huiles essentielles. Et je voulais savoir si c'était, si ça pouvait s'appliquer et quand il fallait le faire.
Philippe, alors déjà, est-ce que c'est une, c'est pas trop mauvais signe si on a des feuilles qui noircissent et des poires qui durcissent?
C'est carrément
pas bon signe.
C'est pas carrément pas bon signe. Mmh. Alors effectivement, le noircissement des feuilles, c'est en général symptomatique d'une attaque de champignons. Donc effectivement, l'application de la bouillie à base de cerisette vivace, d'huile essentielle de cerisette vivace, c'est tout à fait indiqué dans ce cas-là. Mmh. Alors quand est-ce qu'on peut le faire sur un poirier? On peut faire une première application, par exemple le mois-ci, ou éventuellement le mois prochain, mais pas plus tard. Hein, c'est en faisant en fait, le traitement, le fameux traitement aux huiles tout court, on peut mélanger dans les huiles tout court l'huile essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une bouillie très grasse composée de... alors que je ne vous dise pas de bêtises, ça doit faire 300 millilitres d'huile de colza, par exemple, 200 millilitres de savon noir, un bon savon noir bien gras, l'huile d'olive, par exemple. Donc, ça fait 1 demi-litre. Dans ce demi-litre, vous mettez 1 demi-litre d'eau. Donc, et vous faites tiédir, pas bouillir, tiédir pour bien mélanger l'eau, l'huile et le savon noir. Ouais. Donc, ça vous fait une espèce de bouillie qui a une couleur grisâtre, pas très très heureuse, mais c'est pas grave. Et dans cette bouillie, vous allez diluer avec 15 litres d'eau, ce qui vous fait pour un pulvérisateur de 16 litres, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai mis cette recette au point pour mon pulvé de 16 litres.
D'accord.
Et dans ces. Bah oui.
Tant que faire.
Donc après, on fait une règle de 3 quand on a un pulvé que de 5 litres.
Ouais.
Et dans ce 15 litres d'eau, vous pouvez rajouter sans aucun problème donc de l'huile essentielle de sarriette à raison de 8. Je multiplie plus. Voilà. Ça vous fait 160 gouttes.
Ah oui, quand même. Ça fait du monde. Hein.
Donc, grosso modo, ça fait une petite fiole de. Voilà. Et vous arroser allègrement et généreusement les pommiers, les poiriers, les pêchers. Alors c'est efficace contre la coque du pêcher, c'est efficace contre la moniliose, c'est efficace contre plein de trucs.
Donc on fait le verger quoi.
Allez-y gaiement et on peut faire une application en janvier, une application en février et après avec un mode beaucoup moins gras, une troisième application juste avant les floraisons.
D'accord.
Mais là, ça sera beaucoup moins gras.
D'accord. Et vous disiez à l'instant, je m'entendais que, en somme, c'était pas bon le poirier quand c'était ça, c'était que vraiment c'était atteint un point que c'était irrécupérable, peut-être, non?
Non, je pense pas. Non, je pense. Franchement, je pense que.
Mais c'est le signe que c'est là. Voilà.
C'est inquiétant, mais normalement, on peut encore revenir dessus. Et la poire dure, en fait, je pense que c'est qu'elle a été bloquée net dans sa maturité, dans son développement, et qu'elle a pas réussi à le reprendre. Donc là, pour le coup, ça veut dire que l'arbre a quand même un petit problème. Donc il faudrait faire attention à bien le nourrir, à éventuellement bien lui dégager le pied, mettre un bon paillage épais pour que il y a une bonne aération du sol, etc. Faire attention. Souvent, on laisse pousser de l'herbe au pied des arbres fruitiers. Oui. Et c'est pas forcément la meilleure idée du monde.
D'accord. Parce que moi, j'y mettais beaucoup de feuilles autour des pieds.
Ça, c'est bien, oui, par contre. Oui, un bon paillage, oui.
Ouais, d'accord, ok.
Mais pas de l'herbe.
Voilà. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup.
Michel, bon courage.
Merci, passez une bonne journée.
À bientôt, Michel. Merci. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir si vous avez un souci, d'accord?
Il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée.
Nous allons à Saint-Caroc maintenant avec Jocelyne. Bonjour, Jocelyne.
Oui, bonjour.
Jocelyne, alors vous avez des cochoncetés de cochenille, vous?
Des cochenilles sur des orchidées.
Bon, oh là là. L'orchidée, c'est beau, la cochenille, moins.
Exactement.
Et donc, j'imagine que vous voulez que Philippe, surtout, vous débarrasse des cochenilles.
Eh bien, je voudrais bien. Et puis me dire, qu'est-ce qui amène les cochenilles?
Philippe, est-ce que vous pouvez nous aider dans les deux démarches?
Alors, on va commencer par la deuxième, justement. Qu'est-ce qui amène les cochenilles? En fait, ce qui amène les cochenilles, c'est le fait que très souvent, nos orchidées sont dans des intérieurs surchauffés, et c'est pas tellement que la chaleur, c'est surtout le taux d'humidité.
Ouais.
Les taux d'humidité sont beaucoup trop faibles pour les plantes.
Ah,
on est
ça.
Très souvent sur du 35% d'humidité, ouais. Alors qu'une orchidée, il lui faudrait quasiment le double.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme elle passe son temps à évaporer, la pauvre plante, elle concentre énormément la sève. sève. Donc la sève est très concentrée
Très sucrée.
Et là, il y a des petites bébêtes qui s'appellent les pucerons, qui s'appellent les cochenilles, qui s'appellent les petits moucherons, les petites mouches blanches, etc. Ouais. Qui sont des piqueurs suceurs et ça tombe bien. Plus c'est sucré, plus ils aiment.
Oui.
Donc qu'est-ce qui les fait venir? Eh bien, c'est le fait que la sève soit hyper attractive pour ces bestioles-là. Mmh. Donc pour éviter ça, il faut de mettre au créer autour de l'emplacement où il y a les orchidées une bulle d'humidité, une bulle de fraîcheur qui va permettre de faire tomber l'évaporation des feuilles d'orchidées et qui va permettre d'avoir une sève qui soit beaucoup moins attractive. Et à ce moment-là, les cochenilles ne viendront pas ou viendront beaucoup, beaucoup moins. Et en tout cas, en plus, seront beaucoup plus sensibles parce que quand c'est humide, et ça apporte des maladies aussi. Ça fait pourrir les œufs, ça fait pourrir les larves. Donc, c'est bien fait pour eux. Non. Voilà. Donc, après, maintenant, quand elles sont là et qu'elles sont bien installées, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, on investit dans une petite fontaine. On en trouve dans toutes les gadgeteries à des prix très variables. Ça commence à 15 euros, ça finit, j'ai vu des trucs jusqu'à 100 euros. Mais bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'à ça. Et qui vous émettent un très fin brouillard d'eau. Alors après, pour pas que ça fasse ça toute la journée, que ça dépense beaucoup d'électricité, on débranche régulièrement, soit ce qui est beaucoup plus simple, on met un petit programmateur sur la prise et comme ça on le fait déclencher une fois par heure, par exemple, juste la journée, pas la nuit, et ça suffit largement.
D'accord.
Ceci étant fait, il va falloir quand même déloger celles qui se sont installées. Alors, suivant les orchidées, si on est sur des orchidées type Phalaenopsis, l'orchidée papillon, qui est la plus facile, on va envelopper. Alors, soit l'orchidée n'a pas été dépotée depuis longtemps et là on peut faire la totale. On va la dépoter délicatement, on va sortir tout le terreau, c'est pas du terreau, c'est un substrat neutre qui est au pied des racines. Donc c'est composé de billes d'argile, de laine de roche, d'écorce, de pin, etc. On va enlever tout ça, on va nettoyer à l'eau de pluie, c'est pas la ressource qui manque en ce moment en Bretagne. Alors par contre l'eau de pluie en question, on la fait rentrer dans la maison une ou deux journées avant pour qu'elle se mette à température de la pièce. On va la chambrer comme un bon vin. Et là, hop, on trempe délicatement d'abord les racines, puis la rosette de feuilles dans l'eau. On fait un petit coton-tige avec une brochette et puis du papier essuie-tout. Et on va aller délicatement, on peut la tremper dans du savon noir, et on va aller délicatement décoller toutes les cochenilles. Ouais. Et on trempe, faut pas avoir peur de tremper toute l'orchidée. Elle adore ça en plus, l'orchidée. Il y a que la fleur qui aime pas ça, donc on trempe pas les fleurs, mais les feuilles, les racines, on trempe ça dans l'eau, on frotte délicatement, on nettoie, on expulse les cochonneries de cochenille, et après on ressort l'orchidée, on la suspend un petit peu par les racines pour qu'elle s'égoutte bien, parce que l'eau qui reste dans la rosette de feuilles peut faire pourrir les feuilles, donc elle s'égoutte bien, et une fois qu'elle est bien égouttée, eh bien on va la remettre soit dans le même substrat, mais s'il est très abîmé, si on voit qu'il y a beaucoup de poussière, qu'ils ne sont pas très bons, eh bien on en achète du neuf. Ça coûte pas très cher. Le neuf, on le fait tremper dans l'eau lui aussi. Faut que ça trempe pour les orchidées. Mmh. Et puis on remet les racines gentiment, proprement dans un substrat neuf. Et c'est reparti pour un second tour.
Et ben voilà, Jocelyne, vous avez toutes les méthodes.
Ça prend du temps, mais c'est pas grave.
Il faut être un petit peu patient, mais
tranquille. Voilà.
Voilà, comme ça on est bien.
Voilà.
D'accord, Jocelyne?
D'accord. Merci beaucoup.
Écoutez, à bientôt.
À bientôt.
Merci pour tout, Jocelyne. À très vite. On va se retrouver dans quelques minutes avec Philippe Munier sur France Bleu Armorique. Vous n'hésitez pas à lui poser vos questions au 02 99 67 35 35. Dans quelques minutes, on sera du côté de Renac avec Marie.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et on souhaite une belle matinée à l'écoute de France Bleu Armorique. C'est le jardinage ce matin.
Je ne veux me dépêtir, puisque sans contrefaçon.
Farmer sur France Bleu Armorique, sans contrefaçon.
Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, répond à vos questions jusqu'à 10h.
Je ne peux plus payer mon loyer. Que faire ? J'ai besoin de soins, mais plus de mutuelle. Il y a une solution.
Je me sépare. À quoi ai-je droit ?
Vous vous interrogez ? Interrogez-nous au 0800 95 35 45.
Logement, santé, travail, justice. Info sociale en ligne répond à vos questions et vous oriente au 0800 95 35 45. Info sociale en ligne, un service du département d'Ille-et-Vilaine. Appel gratuit.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Il est là, il répond à vos questions. Le docteur des plantes, consultation gratuite ce matin sur France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35. Philippe, je vous l'ai promis, on va à Renac maintenant avec Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Marie, mes meilleurs vœux à toute l'équipe.
Eh ben écoutez, à vous aussi, plein de bonnes choses à vous. Vous avez une belle histoire d'amour avec une plante depuis 20 ans, dites donc.
Oui, voilà. Donc, il se trouve que j'ai récupéré un clivia chez une personne âgée qui est partie en maison de retraite.
D'accord.
Cette plante a plus de 20 ans.
Waouh.
Et elle est énorme. Oh, je dirais 1 mètre d'envergure. Il y a des longues tiges qui retombent. Et or, je ne connais pas cette plante. Et j'attends donc vos conseils s'il faut la laisser telle qu'elle ou la tailler. Voilà.
Alors, un clivia, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Dites-nous tout, Philippe.
Alors, le clivia, pour Yann et tous les autres qui savent pas ce que c'est, c'est une plante d'origine originaire d'Afrique du Sud, une plante de sous-bois, une plante qui a fait des floraisons rouges, jaunes-orangées, hein, des ampes florales absolument magnifiques,
c'est, tout sympa,
c'est
ouais.
Un bouquet de fleurs magnifiques, et c'est une plante qui, c'est vraiment ce qu'on appelle les plantes de grand-mère. Il y en avait dans toutes les maisons quand j'étais gamin, il n'y avait pas une maison de la famille, des amis de ma mère, etc., qui n'avait pas son clivia, voire plusieurs clivias. Alors, c'est une plante qui a une petite difficulté, c'est pour fleurir. Elle a absolument besoin d'avoir une période sèche. Et très souvent, on a envie de donner à boire tout le temps pour qu'elle soit belle, parce que ça fait des grandes, belles feuilles, très brillantes. Donc, on se dit, elle a des belles feuilles, elle va avoir ses super fleurs. Mais non, plus on l'arrose et moins elle fleurit. Donc, il ne faut pas oublier que c'est donc une tropicale. Sous les tropiques, il y a une saison sèche, une saison humide. Donc la saison humide, c'est celle qu'on va créer pour la faire fleurir. Et puis la saison sèche, c'est celle qu'on va lui imposer pour qu'elle se repose et qu'elle fasse sa fleur gentiment. Donc il ne faut pas oublier de la faire sécher tous les ans. Alors pas complètement sécher. En tout cas, on la met vraiment, on la met à la diète d'eau. Et on la met dans un coin où on va un petit peu l'oublier. Alors moi, je me souviens très souvent...
Avec pas trop de lumière, si ?
Alors, si, il faut de la lumière, contre, il faut que ce soit sec et il faut que ça soit à l'abri des limaces, qui adorent les belles jolies feuilles toutes brillantes.
D'accord.
Donc, très souvent, c'était une petite véranda ou une petite marquise à l'entrée de la maison. Et là, à l'ombre, à l'abri, on retrouvait les clivias qui étaient planqués là en punition. Ils n'avaient plus le droit de boire pendant tout l'été. Et ensuite, fin d'été, on les rentrait. Il y avait encore des feuilles un peu moins belles, un peu moins brillantes, mais encore des feuilles. On remettait de l'eau là-dessus et paf, ça redémarrait avec une floraison en général, en février-mars, absolument extraordinaire.
Donc ça veut dire que la période sèche, c'est plutôt l'été, on essaie de lui imposer ça.
C'est ça, de manière à l'avoir en fleur pour le mois de mars, et même si on joue bien avec la plante, si je puis dire, on peut même l'avoir en fleur pour Noël. Hein.
D'accord.
Donc ça peut être sympa. Par contre, effectivement, c'est des touffes qui deviennent très imposantes au cours du temps. Alors soit on laisse, et puis tous les 2 ans, 3 ans, c'est une plante qui aime bien être un petit peu comme beaucoup de plantes à bulbes ou apparentées bulbeuses, ce sont des plantes qui aiment bien être serrées dans le pot. Donc il ne faut pas les enquiquiner trop souvent. Mais tous les 4-5 ans, on peut les rempoter en mettant un pot juste de la taille supérieure et on arrive à faire des potées magnifiques avec plein de hormes florales. Ça fait vraiment une touffe de fleurs magnifiques. Mais on peut aussi ne pas avoir la place d'avoir un monstre pareil à la maison. Et dans on peut diviser, exactement comme tout à l'heure avec Brigitte pour son bilbergia, on peut diviser le clivia. Alors on fait attention d'avoir toujours au moins 5 petits paquet de feuilles, 5 petites départs de feuilles, de manière à ce que dès l'année suivante, elles puissent refleurir, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'elles fleurissent. Donc, faut diviser par 5 à chaque fois. Mais ça se divise très très bien, c'est facile à faire, ça permet de changer un petit peu le substrat et de renouveler, et puis comme ça on peut en donner à la famille et avoir une plante un peu moins imposante.
Et ben voilà Marie, vous savez tout, tous les conseils sont là.
Mais donc je peux la tailler.
Oui, oui, tout à fait, vous pouvez la tailler, mais alors, si vous faites ça maintenant, là, elle va fleurir. Donc attendez la fin de la floraison pour la tailler. Et si elle ne fleurit pas, c'est pas grave, vous taillez de toute façon, quoi qu'il arrive, mi-avril.
D'accord. Eh ben,
écoutez,
voilà.
Je vous remercie beaucoup.
À bientôt, Marie.
Et bonne journée.
Belle journée, Arnac. Ah. Au revoir. Donc, si j'ai compris, vous, les potées, c'est pas au chou, hein. C'est avec plutôt des.
C'est au clivia. Le clivia est une plante toxique, hein, donc faut faire attention.
C'est sympa. Mais m'invitez pas à manger la potée, tout de même.
Voilà.
Alors, on va aller maintenant rejoindre Martine N'a plus rien. Bonjour, Martine.
Bonjour, Philippe et Yann.
Bonjour, Martine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dites-moi tout.
Alors, j'ai oublié de tailler mon fuchsia vivace Tom West et maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je peux le tailler.
Ah, Philippe.
Oh ben c'est pas grave, le fuchsia, maintenant vous lui fichez la paix, hein, vous le laissez, normalement il se repose. Et c'est juste dès le redémarrage de la végétation que vous pourrez faire une taille, donc grosso modo début avril, première quinzaine d'avril. Au contraire, c'est même mieux de ne pas les tailler avant le printemps, parce que ça permet de mettre des feuilles mortes ou de la fougère séchée dans les branches sèches, et ça permet de mieux protéger la souche du froid, parce que le fuchsia, faut quand même pas oublier que c'est une plante d'origine tropicale, là aussi, hein, et donc qui peut geler. Certaines variétés sont très gélives, d'autres moins, mais globalement, c'est une plante qui n'aime pas le froid. Donc, si on peut la protéger, elle redémarrera, pardon, d'autant mieux au printemps. Donc, n'hésitez pas à bien mettre de la fougère séchée dans les branches, et comme ça, elle va pas finir l'hiver tranquille, et au 15 avril, vous la taillerez, et ça sera reparti pour un second tour.
Et ben voilà, Martin. Tout simplement.
Entendu.
Donc il n'y avait pas de drame, pas d'oubli. À bientôt.
J'espère ne plus oublier. Bonne journée
bientôt,
à vous deux.
Au revoir. Nous sommes à Dinger avec Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Daniel, dites-nous tout. Comment on peut vous aider? Quelle est votre question?
Alors, je voulais savoir s'il était encore temps de mettre du BRF dans ma serre. Sachant que j'ai déjà mis un petit peu de crottin de cheval que j'ai griffé légèrement et de la paille également. Voilà, est-ce que je peux encore en mettre? Je pense qu'il y a une histoire de fin d'azote, un truc comme ça. Et si oui, quelle quantité je peux mettre?
Philippe.
Alors effectivement, il y a un problème de fin d'azote. Donc je rappelle, BRF, hein, ça ne veut pas dire boutique, je ne sais pas quoi. Bah, ça veut dire bois raméal fragmenté. Hein. Donc bois raméal, c'est le bois des rameaux, c'est-à-dire tout le bois qui sur un arbre vivant fait moins de 5 cm de diamètre.
Ouais.
Hein, donc ce bois, et donc le reste, c'est le bois coulinaire. Le bois raméal, il a l'intérêt, c'est que quand on regarde bien les fines branches d'un arbre, le bois raméal, c'est celui dont l'écorce est la moins triturée, la moins épaisse, et surtout très souvent elle est de couleur verte, c'est-à-dire qu'elle est gorgée de chlorophylle et donc de sève. Mmh. Et donc elle est gorgée de nutriments, et en plus c'est là qu'il y a les bourgeons, et dans les bourgeons il y a des réserves de nutriments aussi, et puis il y a tout un tas dans les creux d'embranchement, il y a des petits méristèmes qui attendent tranquillement, et dans les méristèmes il y a là aussi des réserves de nourriture. Donc tout ça c'est gorgé de nourriture, ce qui fait que quand on broie ce bois là,
oui, c'est facile. Voilà.
Eh bien, on va rapporter plein de choses,
de nutriments,
ouais, de nourriture au sol.
Okay.
Mais effectivement, comme le disait Daniel, il y a un problème de fin d'azote, c'est-à-dire que quand on amène de la matière comme ça, très riche en carbone, il va falloir que pendant un temps, le sol récupère ailleurs de l'azote, et donc il va le piquer dans le sol présent, pour lancer la fabrication de champignons pour décomposer le BRF, et quand il aura fini son travail, il restituera l'azote, mais entre les deux, s'il y a eu il y avait des plantes là, elles sont mortes de faim d'azote. Mmh. Donc on fait très attention, et maintenant, janvier, on est encore en plein dedans. On peut y aller sans aucun problème, parce qu'il y a janvier, février...
Il y a du temps avant que ça...
Voilà, on va recommencer en mars,
ouais.
mais juste si et seulement si vous arrosez régulièrement, parce qu'il faut que les champignons puissent se développer. Hein.
Donc, j'arrose très régulièrement. Oui, oui.
Bon, voilà. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, quelle quantité? Bien, ça dépend complètement de ce que vous avez mis en crottin de cheval et autres compost. Donc il ne faut pas en mettre trop, ça ne sert à rien. Il vaut mieux étaler sur plusieurs années que d'en mettre trop une année. Et donc, c'est à vous de... Mais de toute façon, d'une manière générale, le BRF, c'est au moins 5 cm, mais on peut aller jusqu'à 10-15 cm sans problème, mais tout dépend de ce que vous avez mis les années précédentes et de ce que vous avez déjà apporté dans votre serre.
Ok, d'accord.
Et bien voilà,
je vais...
Sachant qu'une serre, elle mange deux fois plus de matière organique que, que l'extérieur, parce que comme il fait plus chaud, normalement, une serre, si tout va bien, on peut faire deux récoltes par unité de surface.
Oui, oui, d'accord, très bien.
Voilà, ouais, Daniel, c'est encore le bon moment. Mais je vous en prie. À bientôt, Daniel.
Au revoir.
Au revoir. On va se rendre dans quelques minutes à Torigny-Foulard. On va se rendre dans quelques minutes à Torigny-Fouillard pour rejoindre Paulette. Et on sera également à Saint-Armel avec Jean-Pierre, ou à Rennes avec Jean-Paul. Bref, on a pas mal de monde qui nous attend. Vous continuez, vous aussi, à poser vos questions et interroger Philippe Meunier au 02 99 67 35 35. Notre expert jardin ce matin.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Il vous attend, il est là, il est en forme. Et pour aller jusqu'à nos prochains auditeurs, Slimane et Vita, cette nouveauté avant toi sur France Bleu Armorique. On souhaite une excellente matinée à l'écoute de votre radio en Bretagne.
Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur.
Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit.
France Bleu Armorique, Vita et Slimane, avant toi.
Jardin bleu sur France Bleu Armorique avec Philippe Meunier et Yann Brialix.
Philippe Meunier, toujours en notre compagnie, vos questions 02 99 67 35 35. Et Paulette qui est à Torigny-Fouillard. Bonjour Paulette.
Bonjour messieurs.
Bonjour Paulette, dites-nous tout, vous avez un problème de prunes apparemment.
Et voilà, exactement. On a un verger qui est à Saint-Ganton.
Oui.
Donc on va le voir, on y va régulièrement. Et ce prunier a été planté, ça fait 10 ans. Il n'a jamais donné de fruits.
Et vous n'avez jamais eu de prune en 10 ans ?
Non. Alors, au printemps, il fleurit un petit peu, mais très, très, très peu.
Ouais.
Par contre, il fait des branches, des feuilles et du tronc. Voilà.
Bon.
Il est très beau en arbre, mais c'est tout ce qu'il sait faire.
Mais oui, mais vous voulez des prunes. C'est un peu l'idée.
Ah bah, hein,
on est bien d'accord. Philippe.
Préférant. Les vergers, c'est ce qu'on cherche.
Philippe, alors à part se garer sans payer le stationnement pour avoir une prune, vous avez quoi?
Rien.
Alors. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est comme variété, parce que
voilà, mon mari, c'est ce que je lui ai posé la question. Il se rappelle plus. Et c'est une grosse prune jaune, parce qu'on en a peut-être eu une ou deux, mais tout au début. Mais c'est tout. Une grosse prune jaune, voilà.
C'est une seule grosse mirabelle par prunier, voyez. Mais l'intérêt est bon, hein.
En fait. La plupart des pruniers modernes sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'ils se pollinisent tout seuls comme des grands.
Mmh.
Mais les pruniers de variétés plus anciennes, en général, on a besoin d'avoir deux pruniers compatibles. Donc c'est pas la même variété, c'est deux variétés différentes, mais qui sont dites compatibles, de manière à pouvoir avoir une fertilisation correcte. Si le...
Et quand vous dites
il n'y a qu'un seul prunier, il n'y a pas de pollinisation, donc il n'y a pas de prune.
D'accord. Et quand vous dites ancienne, ça veut dire qu'il faut qu'il soit planté dans quel laps de temps? Comment on peut savoir si c'est un nouveau, donc qui est tout seul autonome comme un grand, ou alors un ancien à qui il faut un copain?
Alors en fait, c'est justement en connaissant le nom de la variété.
Ah, c'est ça.
Voilà.
Ah, oui. Paulette,
si, si je vous dis, je sais pas, fertile de machin, c'est force, il y a de fortes chances que ce soit une vieille variété. Si
d'accord.
Je vous dis pruneline plutôt, c'est une variété moderne.
D'accord,
voilà.
Okay.
Donc c'est que le nom qui va changer le...
Alors, Paulette.
Si c'est une couèche, par exemple, c'est une vieille variété. Souvent.
Paulette, c'est une vieille variété.
Non, mais, non, Paulette. Ne le prenez pas mal, Paulette. Alors, on va avoir des soucis avec le compagnon de Paulette. Hein. Arrêtez. Hein. Enfin, non, ben non. Mais non, Paulette. Du coup, alors vous arrivez à. Est-ce que, en fait, il faut partir, il faut faire un petit peu l'enquêteur, si vous voulez, sur ce coup-là.
Oui.
Hein.
Ouais, il faut savoir ce que c'est comme. Pour essayer de retrouver ce que c'est comme variété de prune. Voilà.
C'est ça. Et,
voilà.
Et dès lors,
de manière
vous avez
à savoir
ça...
si elle a besoin d'un copain.
Voilà. Copie,
en fait, de toute façon, c'est de variété, voilà. Et sinon, il y a une autre solution qui marche très bien. Hein. C'est celle que j'ai pratiquée moi il y a une bonne quinzaine d'années déjà. C'est que j'ai arraché le prunier qui m'enquiquinait et que j'ai planté à la place une variété que je savais auto-fertile. Ouais. En l'occurrence, une variété anglaise, donc qui est la Queen Victoria, qui est une très belle grosse prune rouge.
Et maintenant, incident international, il insulte, il met à mal la royauté anglaise. Mais c'est fait. Dites donc.
Ben non, au contraire.
C'est un hommage.
J'ai dit que c'est une très belle variété.
C'est un hommage.
Voilà. Et sinon, en prune jaune, il y a une variété qui s'appelle anglaise. Je sais plus. C'est la vieillerie.
Vous avez la prune très british, en fait.
Ah, mais juste l'intérêt, en fait, c'est qu'on a quand même un climat qui est beaucoup plus proche de celui des Anglais que de celui des Alsaciens.
Ouais, de fait.
D'accord.
On est d'accord.
Voilà. Et que la plupart des prunes qu'on plante traditionnellement en France, c'est des prunes variétés de l'Est, parce que c'est celles qu'on connaît, qui sont françaises, voilà. Et, sauf qu'en Bretagne, elles ne marchent pas très bien.
Ouais.
C'est pas celles qui marchent le mieux. Et les prunes anglaises, elles marchent très bien, et ils ont des très belles prunes. Et voilà, le plumage, ça existe, et c'est parfois très bon.
Bon, Paulette, deux solutions.
Il faut prendre des variétés anglaises.
C'est ça, déjà, pour que ça marche mieux chez nous, c'est mieux. Et puis, soit vous arrivez à retrouver la généalogie de votre arbre, soit sinon, il y a la méthode le plus radical, mais qui marche visiblement très bien, de Philippe, d'accord ?
Oui, on l'enlève et on en met un autre à la place.
Exactement.
Voilà.
Vous nous donnez des nouvelles, d'accord, Paulette ?
Merci, oui, je donnerai. Merci.
À bientôt, au revoir, Paulette.
Au revoir.
Nous sommes à Saint-Armel avec Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour Yann, bonjour Philippe et bonne année à vous.
Ah, merci beaucoup, à vous aussi, plein de bonnes choses. Est-ce qu'on peut commencer ces bonnes choses par un bon conseil de Philippe ?
Oui, pourquoi pas.
Et alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
Eh bien, écoutez, j'ai un mimosa d'été, Osmanthus, c'est marqué sur l'étiquette, Osmanthus burkwoodi. Le problème, c'est qu'il a bien poussé. Je l'ai planté il y a 2 ans. Il a un joli tronc de 10 à 12 centimètres de diamètre. Et il y a une branche qui pose problème, qui n'a plus les feuilles de cette branche-là n'ont plus la même couleur que les autres. Elles sont vues de loin, c'est plus gris. Elles tombent, il y a des feuilles qui tombent au sol. Et à la base des petites branches, il y a des feuilles qui sont sur le recto. Enfin, elles sont vertes sur le verso, sur le recto, elles commencent à être rousses avec quelques taches noires.
Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ça veut dire, de manière très claire, que cette branche-là, je sais pas pourquoi une particulièrement, mais voilà, est attaquée par des insectes piqueurs suceurs. Hein, donc toute l'énumération de ce que vous avez dit, la couleur un peu plombée, le rouge en dessous avec des taches, des petits points noirs qui sont en général les crottes des insectes piqueurs suceurs, ça veut dire que la branche est attaquée. Alors moi dans ces cas-là, j'ai une seule solution là aussi, c'est le sécateur. Je coupe et je brûle. Hein. Alors on n'a pas le droit de brûler, de faire des feux, mais c'est pas grave, on a le droit de faire des barbecues, donc j'utilise la branche très rapidement pour faire un barbecue, et comme ça, le problème est vite réglé. D'accord. Parce que sinon, si on essaye de mettre des trucs, des machins, ça marche jamais. On supprime la plante. Par contre, faut bien vérifier après que les piqueurs suceurs n'auront plus à manger sur cette branche-là. Ils vont peut-être essayer une autre branche. Donc dans ces cas-là, il suffit tout simplement. Et c'est aussi bête que ça en plein été, c'est d'arroser le feuillage du pied vers le haut, donc du sous les feuilles, d'arroser régulièrement. Et ça, c'est la plupart des insectes piqueurs suceurs ne supportent pas ça. En tout cas, leurs œufs et leurs larves pourrissent. Donc, ça les fait partir.
Génial. Et c'est totalement naturel, en plus.
Voilà. Bon, ça gaspille l'eau, donc il vaut mieux garder l'eau de l'hiver dans des réserves.
Oui, c'est utiliser ça. Cette eau-là. Avec le pulvérisateur dont vous nous parliez, là, le 16 litres.
Absolument. ou plus petit, si vous voulez.
Ou plus petit, évidemment. Jean-Pierre.
Oui.
Voilà, c'est la coupe et ensuite l'entretien pour éviter que ça aille ailleurs, quoi.
D'accord. Et il n'y a pas de danger pour les saucisses si j'utilise dans le barbecue.
Philippe.
Ni pour les côtés. Non, c'est une plaisanterie.
Bon. Merci beaucoup, Jean-Pierre, en tout cas, et à très vite.
D'accord, bonne journée à vous.
Et bon barbecue par avance, hein, bonne galette de saucisses. À bientôt. On est à Rennes maintenant avec Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul.
Allô, bonjour.
Jean-Paul, bonjour, dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vous aider?
Oui, alors, tous mes vœux, par commencer.
Ah, vous aussi, évidemment.
Hein? Et puis moi, c'est la même question que Paulette. Hein?
Ah.
Mais c'est pas des prunes, c'est un figuier.
Ah, alors est-ce qu'il y a une différence entre les prunes et les figues? On va voir ça. Philippe, même conséquence, même problème, mais cette fois-ci on change de fruit, on est avec la figue.
Alors du coup c'est pas du tout la même chose parce que la figue elle a pas besoin d'être pollinisée pour fructifier.
Ouais. Donc c'est pas le même problème du coup.
C'est pas le même problème. Alors ça peut être un problème de nourriture, un manque de potasse par exemple. Ça peut être un problème d'approvisionnement en eau si par exemple le figuier fait des petites figues et puis à un moment donné elles tombent toutes.
Pas du tout.
Bah, comme ça on est tranquille.
Ouais. Alors
est-ce que c'est un figuier que vous avez acheté en Méditerranée?
Non, j'ai acheté dans la région du Mont-Saint-Michel.
Donc d'accord, voilà, on est assez loin.
Oui, donc ça veut dire... Non, mais parce que il y a un truc tout bête, hein, c'est que pendant les figues qui viennent de Grèce, de tout ce coin-là, ouais. Traditionnellement, il y a très 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 longtemps.
Oui.
Elles sont partie génétique, elles se font le fruit toutes seules comme des grandes.
D'accord.
Et puis quand on est allé casser les pieds de l'autre côté de Christophe Colomb et aller faire l'idiot de l'autre côté là-bas, il a trouvé vers le Mexique par là, ouais. Il a trouvé un petit insecte qui pollinise les figues.
D'accord.
Et du coup, il a ramené d'Amérique un figuier spécifique, ouais. Avec l'insecte aussi. Et donc, on trouve maintenant en région méditerranéenne les deux variétés de figuier. Les figuiers traditionnels et les autres. Voilà, et du coup, le petit insecte, c'est quand même quelqu'un, enfin, une petite bébête qui aime beaucoup la chaleur. Donc, il ne fonctionne correctement qu'en bordure méditerranéenne, il ne peut pas fonctionner en Bretagne.
D'accord.
C'est pour ça que je voulais savoir si c'était... Voilà. Mais si c'est une variété classique, on va dire, là aussi, eh bien, s'il n'y a pas production de figues, c'est qu'il y a un problème d'alimentation. Et je l'ai dit tout à l'heure, souvent, c'est un manque de potasse. Les arbres fruitiers ont besoin de potasse pour faire des fruits.
Je lui mets beaucoup de terreau.
Okay. Alors, le terreau, c'est pas forcément de la potasse. La potasse, c'est plutôt la cendre de bois, par exemple, en quantité limitée.
J'en mets aussi un peu.
D'accord. Alors, bien quantité limitée, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une poignée par mètre carré et par an, c'est pas la peine de faire plus, parce que plus, ça risque de ficher le bazar partout. Et donc, du coup, le sol étant déséquilibré, la plante sera pas mieux non plus. Donc, faut faire très attention à pas mettre trop. Mais en mettre un petit peu régulièrement tous les ans, c'est une très bonne idée. Alors, s'il a du terreau, si, enfin, du compost, je suppose.
Du compost de maison.
Voilà, s'il a du... la cendre. Et qui fait rien. Alors là, je crois, franchement, très franchement, je prendrais l'option celui-là. il va aller voir ailleurs
c'est
si
ça,
fait beau.
C'est ça.
Et j'en mets un que j'ai vu chez le voisin là-bas.
Ça sent
que
le coup de
il marche
pelle.
Très très bien. Ça se bouture très très bien le figuier. Hein. C'est une plante qui se bouture.
Très bien, hein.
Oui, non, mais d'accord, mais s'il pousse sans rien, faire de fruits, autant aller chez le voisin qui, lui, a un figuier qui fait des fruits, lui prendre une bouture de son figuier qui fait des fruits et enlever le vôtre qui n'en fait pas.
Bon.
Et alors, oui, on ne met pas à la même place. Hein. C'est comme pour Paulette, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est celui qu'on enlève, ouais. On ne remet pas la même chose à la même place.
D'accord.
On se décale forcément d'au moins 1 ou 2 mètres.
Ok. Hein. Ok, ok. Jean-Paul, un petit coup de pelle, hein, du coup, sur le figuier, et puis on va voir le voisin, ça permet d'avoir de bonnes relations.
D'accord, merci.
D'accord.
Et puis, il y a plein de variétés extraordinaires, hein, et il y a des variétés classiques du Manche Nord, hein, c'est une figue blanche qui ressemble beaucoup à la Blanche d'Argenteuil, et qui est une variété qui pousse spontanément sur toute la côte nord de la Bretagne, et qui est une grosse figue blanche délicieuse en confiture, mais il y a aussi des variétés violettes tout à fait délicieuses. Adapté à notre climat.
Bah, c'est des violettes en principe, mais bon.
Mais là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Bon, Jean-Paul, bon courage à vous en tout cas, et on espère que vous allez avoir un figuier et de belles figues très prochainement. À bientôt, Jean-Paul. Dans quelques minutes, on va se retrouver avec Louise. Louise qui est à Rennes. On vient avec Philippe Munier.
France Bleu, partenaire du magazine Cuisine et Vins de France. En janvier, spécial esprit gourmand d'hiver avec la cuisine en cocotte, le cassoulet qui nous réchauffe, mais aussi les bienfaits de la sève de bouleau pour se remettre en forme. Et gros plan sur l'île de Madère et sa gastronomie. Et sur France Bleu, du lundi au vendredi à 10h, on cuisine ensemble. Le plein de bonnes recettes avec Cuisine et Vins de France. Toutes les infos sur francebleu.fr. Bleu et Détour en France vous invite à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et tradition. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci dans Détour, le Limousin. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu, partenaire de Peur sur le lac, la nouvelle série événement sur TF1. Le virus continue à se propager sur Annecy et les équipes de Lise Stocker et Clovis Bouvier sont très exposées. Sur place, la colère monte quand la décision de boucler la ville est prise. Peur sur le lac, 2 nouveaux épisodes, jeudi 16 janvier sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
J'aime ma cure thermale à Gréoux-les-Bains. Pour mes douleurs aux genoux, les massages sous l'eau m'apaisent, m'assouplissent. Les boues chaudes me détendent, me soulagent. Et je redécouvre la marche en Provence.
Pour vos rhumatismes, prenez un nouveau départ à Gréoux-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité.
Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chainethermale.fr.
Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, répond à vos questions jusqu'à 10h.
Et la question de Louise pour clôturer cette tranche jardinage. Louise qui est à Rennes, bonjour Louise.
Bonjour à vous tous.
Louise, comment on peut vous aider?
Alors j'ai un camélia qui pousse bien, celui-là, ouais. 4-5 ans. Et l'année dernière, il y a eu des petites bébêtes qui ont décidé de me transformer les feuilles en dentelle.
Pas terrible.
Non.
Et alors que faire?
Pardon?
En fait, vous voulez savoir comment on peut chasser tout ça?
Oui, si je peux les évacuer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Ou... Ils ont touché aussi au rosier, mais ce n'est pas grave, les feuilles s'en vont. Alors,
Philippe, pour les camélias, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, la solution, très souvent, c'est le truc aussi bête que tout à l'heure pour l'osmante, c'est-à-dire un arrosage régulier sous les feuilles. D'accord. Il faut vraiment intervenir sous les feuilles et le faire régulièrement. Ouais. Parce que donc les cycles de reproduction des insectes, ben, grosso modo, c'est tous les 10-15 jours. Donc, si on passe tous les 10-15 jours qu'on arrose sous des feuilles, ben, on fait pourrir les œufs, on fait pourrir les larves et on chasse les insectes qui détestent être mouillés. C'est pour ça qu'ils se mettent sous les feuilles, parce qu'ils savent que sous la feuille, ils sont à l'abri. Mmh. Donc, très souvent, ça suffit largement. Un pulvé, de l'eau de pluie, éventuellement, on peut mettre un tout petit peu de savon noir dedans. Comme ça, ça va coller les œufs et les larves sous les feuilles. Ils vont mourir encore plus vite. Et puis, souvent, ça va bien. Alors après, il faudrait savoir quel type de dentelle a été faite. Et là, ça, il faudrait une photo parce que il y a une bestiole qui s'appelle l'oturinque. Et l'oturinque, et ben, ça s'en va pas avec l'eau de pluie.
D'accord, bah écoutez, Louise, essayez déjà l'eau de pluie, si jamais ça marche pas, vous n'hésitez pas à nous envoyer une photo pour notre ami Philippe. Merci Louise de votre fidélité, à très bientôt. Merci beaucoup, merci Philippe d'avoir été avec nous. Un petit conseil de lecture en 30 secondes.
Alors, 15 secondes même.
15 secondes. Allez,
c'est un très très beau bouquin, mais c'est pas grave, je sais qu'on n'a pas le temps. Ça s'appelle Les graines et leurs usages. C'est donc à l'usage de tous ceux qui aiment le jardin, qui aiment les graines et qui aiment faire des trucs avec les graines. C'est chez Delachaux et Niestlé, l'éditeur Nature. Ça coûte 39,90, mais c'est pour un très gros paquet de pages que je vais vous donner tout de suite. 444 pages, quand même. C'est magnifique. C'est un bouquin vraiment, on apprend des choses extraordinaires sur une graine. Ça ne sert pas qu'à faire une autre plante, ça sert aussi à faire plein de trucs. Et bien, vous l'apprendrez grâce à ce livre. Je rappelle, Les graines et les plantes chez Delachaux et Niestlé.
Et ben voilà, pas mal du tout. Merci beaucoup, Philippe, de ce conseil de lecture. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux vos conseils au 02 99 67 35 35. Merci et très belle semaine, Philippe.
Et ben bon dimanche à vous et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
France Bleu Armorique. France Bleu. L'épiphanie, c'est gourmand. Et nos boulangers bretons en parlent.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Jourdain, je suis patron de la boulangerie au Four d'Antan à Dole de Bretagne. Les galettes cette année, on a ce que la frangipane comme d'habitude, on a une galette pomme caramélisée avec toujours de la frangipane. Et la troisième sorte de galette, c'est une frangipane à la noisette avec des poires. Un mélange assez subtil et très intéressant. Au niveau des fèves, on travaille avec une maison qui nous fournit spécialement des petits poissons avec plein de coloris. Au niveau de la sacherie des galettes qui est importante, c'est une sacherie qui est un peu plus épaisse, donc qui regresse beaucoup moins vite. Sachant que je travaille à un feuilletage qui est hydraté à la crème liquide, donc ce qui lui confère un croustillant très intéressant et surtout en fin de bouche, un fondant vraiment superbe.
Recettes, tours de main et petits secrets. L'épiphanie se fête avec France Bleu Armorique. France Bleu Armorique. France Bleu.
Merci de nous avoir choisis et bienvenue à vous. Il est 10h sur France Bleu. France Bleu Armorique. L'actualité avec Loïc Galec.
Bonjour, c'est la division syndicale après l'annonce d'Edouard Philippe sur les retraites. Dans un courrier adressé hier aux partenaires sociaux, le Premier ministre s'est dit disposé à retirer sous condition l'âge pivot de 64 ans, mais ceci sous réserve que syndicats et patronats s'entendent pour proposer une autre solution budgétaire lors de la conférence de financement. Alors la CFDT qui demandait ce retrait est satisfaite. On écoute Christophe Rondel, secrétaire départemental dans les Côtes-d'Armor.
Au-delà du gouvernement, il y a sans doute une modification des postures également des partenaires sociaux patronaux. C'est un élément important. En tout cas, nous comptons également sur cette modification puisque